Je rappelle que ce sont des séances de travail. Par voie de conséquence, nous pouvons avoir des opinions différentes et c'est la confrontation entre des opinions différentes ou des modulations d'opinions qui représentent l'intérêt d'une réunion comme celle-ci dont l'importance est tout à fait considérable parce que le problème se pose actuellement, on pourrait dire dans l'ensemble de notre communauté, mais c'est un problème qui a un fonctionnement qui est beaucoup plus ubiquitaire. Alors, je voudrais faire une petite remarque différente. Là, nous avons par rapport à un phénomène deux stratégies possibles. La première, c'est d'avoir une approche descriptive pour finir à une culture commune et arriver à dire ce que nous appelons maltraitance. Eh bien, c'est une conduite, c'est un comportement qui est caractérisé par un certain nombre de traits. Auquel cas, nous savons ce que nous avons en commun et nous ne partons pas dans des grandes discussions à partir de définitions de la maltraitance qui sont extrêmement hétérogènes, hétérogènes soit dans le fond, soit par rapport à quelques subtilités. Et puis d'autre part, nous avons une approche qui est très différente, qui est une approche compréhensive. C'est-à-dire, quels sont les mécanismes qui sont sous-jacents, quels sont les déterminants qui sont à l'œuvre, et dans quel environnement les choses se passent. Et vous voyez que la première des conceptions, l'approche descriptive, c'est fait pour avoir en commun une capacité d'identifier le même phénomène. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui est un phénomène de description et un phénomène d'utilité communautaire et d'utilité scientifique. Quant au problème de l'approche compréhensive, c'est quelque chose qui vise à pouvoir agir sur le phénomène. Pas simplement produire de la connaissance, mais savoir quelles sont les modalités d'action que l'on peut avoir. Et je crois que c'est très important parce qu'on peut avoir à ce moment-là des actions qui sont soit des actions à distance sur un des déterminants et des facteurs, ou des actions qui sont faites en direction du comportement lui-même. Quand on dit on va diminuer de 30% l'occurrence de tel phénomène, c'est tout à fait différemment que l'on prend le problème quand on dit il existe des déterminants environnementaux sur lesquels nous allons agir, ce qui aura pour conséquence de diminuer l'occurrence d'un phénomène. Et je crois que ce qui est intéressant dans la démarche du ministère et dans la démarche d'un certain nombre d'acteurs et plus particulièrement de ceux qui nous reçoivent aujourd'hui, c'est parce que ceci a été bien clarifié. Et c'est pourquoi c'est une démarche qui risque d'être opératoire. Autre remarque, le problème de la maltraitance, quand on regarde maltraitance, il y a quelque chose qui est par rapport à ce qui est bien et ce qui est mal. Or, on a le même problème avec l'agressivité et l'agression. Je crois que c'est un concept qui n'est pas opératoire et qui ne permet pas de fonctionnement. Il y a maltraitance quand telle conduite, tel comportement, telle parole, etc., parce que les maltraitances verbales, c'est aussi un domaine formidablement important, qui est susceptible de produire, d'engendrer des dommages vis-à-vis de la personne. Et la manière dont nous avons à appréhender les choses, c'est d'identifier les dommages. À partir du moment où on identifie les dommages, nous sommes sur un terrain sûr. Nous sommes sur un terrain qui ne souffre pas de contestation, une fois qu'on a fait bien son travail pour identifier les dommages. Après, il y a un autre travail qui consiste à montrer que ces dommages ont bien été induits par telle ou telle personne, par telle ou telle circonstance, dans tel et tel cas, etc., etc. Auquel cas, c'est le problème de la responsabilité, de la survenue d'un dommage et de l'imputabilité. C'est un autre travail. Et par voie de conséquence, les mises en action des actions de prévention sont très différentes. Les mises en place des actions de soins sont très différentes et les mises en place des actions de réhabilitation sont très différentes. Si vous voulez, je crois que ce qu'il faut bien avoir, c'est une clarté dans la position du problème. Une fois qu'on a cette clarté dans la position du problème, on s'aperçoit que nous avons là toute une série de représentations annexes qui vont faire que c'est à partir des représentations que nous allons proposer des actions, que nous allons proposer des politiques. Et cela, ça pose. Qu'est-ce qu'il en a été récemment? On a vu des représentations se mettre en place. Et ces représentations, elles devenaient des histoires de chasse. Elles devenaient des histoires des racontars. Et du coup, on traitait cela comme des racontars, comme des histoires de chasse, comme ce qu'on se raconte derrière le maillot. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où on pose l'idée, le concept de maltraitance, comme quelque chose que l'on décrit et qui peut survenir et qui survient dans le milieu du sport aussi bien que dans les autres milieux. À partir de ce moment-là, ce n'est plus la culpabilité, ce n'est plus la stigmatisation, ce n'est plus la dénonciation, c'est comment on se débrouille ensemble pour éviter quelque chose qui est dommageable pour un certain nombre d'entre nous. Je crois que ça, c'est important. Dernier point, la maltraitance, elle se qualifie aussi dans un certain nombre de ses caractéristiques par l'intentionnalité. Tout à l'heure, la discussion sur l'excision, la scarification, le piercing, le tatouage, qu'est-ce que c'est? C'est un problème aussi, non pas de fait, mais aussi d'intentionnalité. Et c'est cette intentionnalité qui va donner du sens. Et l'intentionnalité fait partie des critères de la description des maltraitances. Et je crois que ça, c'est tout à fait important. Dernier point, et enfin le dernier point, vous savez que les psychiatres ont toujours un dernier point à caser. On veut en caser le plus possible, n'est-ce pas, docteur? On va voir quoi? C'est que la maltraitance, c'est pas simplement les gens du milieu sportif. C'est tout l'environnement. C'est nous tous. Le sport n'existe que dans la mesure où il y a un public. D'ailleurs, on appelle ça des performances. Performance, en anglo-saxon, ça veut dire le spectacle. On se donne à voir. On fait pour soi, mais on fait aussi pour les autres. Et que par voie de conséquence, la maltraitance venant du public est aussi une maltraitance tout à fait importante. Mais dans cette session, là, on va aborder quelque chose qui est une partie simplement de l'identification des dommages. Et on a parfaitement légitimité à aborder le sujet des maltraitances par un certain nombre de dommages bien spécifiés. Le problème, c'est qu'il faut garder à l'esprit qu'il y a un ensemble de choses. Et c'est pourquoi je vais donner la parole tout de suite au docteur Jean-Jacques Choulot sur le sport de haut niveau et maltraitance de l'enfant dans ses aspects somatiques.
Merci, M. Simon et aux organisateurs de m'avoir invité. Ceux qui sont les plus près ont probablement remarqué que j'ai un magnifique hématome périorbitaire, ce qui témoigne de ma conscience professionnelle, puisque je n'ai pas hésité à me faire maltraiter sportivement pour parler de quelque chose que je connaîtrais mieux de l'intérieur. Vous pouvez m'aider pour faire arriver le diaporama, s'il vous plaît. Lorsque je parle de maltraitance, généralement, on me demande de parler de maltraitance juridiquement punie, c'est-à-dire des enfants victimes de coups, de blessures, de fractures, ou des enfants victimes d'abus sexuels. Lorsque je parle de ces sujets, c'est beaucoup plus souvent que lorsque je parle de maltraitance sportive, je commence toujours mon intervention par quelques remarques sur les autres formes de maltraitance, que ce soit la maltraitance sportive dont je vais essayer de parler, que ce soit la maltraitance musicale, Mozart en est un magnifique exemple, que ce soit la maltraitance religieuse, les enfants dans les sectes, que ce soit la maltraitance éducative, les enfants soumis à des cours du soir et à des cours de vacances, tant et plus. Mais là, on est dans la maltraitance sportive, et avec l'histoire de ce petit que je vais appeler Lucien, qui a fait la première page de la République des Pyrénées, ce petit garçon de 7 ans, pour lequel son père a jugé bon de l'emmener faire un sommet de plus de 7000 mètres dans l'Himalaya. Ce père a récidivé 2 ans après, quand il avait 9 ans, et cette fois-ci, il l'a expédié à 8000 mètres d'altitude. Eh bien, dans ces deux articles de la première page de la République des Pyrénées, on a à peu près tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire vous dire que c'est une maltraitance qui n'est jamais ou très rarement reconnue comme maltraitance. Au contraire, c'est une maltraitance magnifiée. C'est magnifique d'emmener un petit de 7 ans à 7000 mètres, un petit de 9 ans à 8000 mètres. Heureusement que ça s'est arrêté, parce qu'à 11 ans, on ne sait pas où il serait allé. Et dans l'article en page intérieure de la République des Pyrénées, il y a tout. Il y a le père qui est décrit le soir sous la tente en train de, entre guillemets, bourrer son fils de médicaments pour qu'il parvienne à monter à 8000 mètres d'altitude. Ça s'appelle le dopage pour moi. Il y a les dangers de la haute altitude, le mal aigu des montagnes qui est quelque chose de physiologiquement extrêmement grave et qui est susceptible d'entraîner la mort et dont on ne sait absolument pas comment un enfant de 7 ans est capable de réagir. Les risques liés à l'hypo, à l'hypothermie, les risques liés à la montagne en général. Et c'était quoi? Eh bien, c'était réaliser un rêve du père. L'enfant, lui, ses motivations pour faire cet effort absolument considérable qui consiste à monter en si haute altitude n'avaient absolument pas été réellement consultées. Donc, dans cette histoire, il y a beaucoup de choses, et notamment le fait que c'est une forme de maltraitance qui non seulement n'est pas réprimé, j'avais eu très envie de faire un signalement au procureur sur cette histoire-là pour voir ce qui allait se passer. C'est quelque chose qui n'est pas réprimé, mais au contraire qui est magnifié, notamment par les médias. L'histoire de Sandra, 12 ans, excellente élève, hospitalisée dans le service de pédiatrie de Pau pour une anorexie mentale. La mère est une excellente gymnaste. La fille va en gymnastique en section sportive. Elle a par son entraîneur une injonction de maigrir. Elle est trop grosse. Lequel entraîneur, j'ose pas dire entraîneuse parce que féminin entraîneur c'est difficile, ou peut-être entraîneur E. Laquelle entraîneur est elle-même une ancienne anorexie mentale, désir d'identification. Et à 13 ans, c'est une jeune fille à une anorexie mentale extrêmement sévère. Certains sports sont pour moi des sports générateurs d'anorexie mentale. Des sports où, pour être très performant, il faut, très performante puisqu'il s'agit majoritairement de filles, il faut être particulièrement maigre et où on désire s'identifier à l'entraîneur. Petite parenthèse, sous une forme d'anorexia athletica, d'anorexie athlétique, il est décrit une forme d'anorexie mentale qui serait peut-être un peu moins grave, qui serait un peu mieux compensée par les bénéfices secondaires que donnent les performances sportives. Ça reste quand même un trouble du comportement alimentaire extrêmement grave. Les facteurs d'inquiétude devant une jeune fille ou un jeune homme, mais c'est beaucoup plus rare, c'est un fléchissement sportif et scolaire, c'est un isolement du groupe, une prise des repas en dehors des autres, une tendance au végétarianisme, un tri des aliments dans l'assiette. On promène les aliments dans l'assiette, on les coupe en tout petits morceaux pour finalement n'en avaler que très très peu. Un désir rapide d'isolement après le repas, ça veut dire que l'enfant part vomir. Et j'insiste bien sur le fait que les filles ayant une anorexie mentale sont extrêmement performantes pour se faire vomir sans que ça s'entende, sans que ça se voit, sans que ça se sache. Mais bien sûr, c'est la perte de poids qui sera le maître symptôme. L'histoire d'une petite Lucie, 11 ans, gymnastique en section sportive et scolaire, en 6e, éloignée de 800 km de ses parents. L'enseignant, éducation nationale, hein, c'est pas une officine secondaire, c'est l'éducation nationale. L'enseignant décide que la cantine n'est pas adaptée à sa classe de jeunes gymnastes et leur fait servir un régime spécial. Fort heureusement, un certain nombre de ces jeunes filles sont un peu plus délurées que d'autres, et elles font le mur pour aller s'offrir quelques chocolatines le soir. Sport et dopage. Thomas, adolescent, club de rugby de haut niveau d'Aquitaine, équipe de juniors. Avant le match, l'entraîneur leur met des cotons de synthol dans le nez et leur fait respirer de l'oxygène dans un obus d'oxygène comprimé. Bon, effet physiologique inexistant, hein, ce n'est pas les cotons de synthol qui vont le rendre plus performant, ce n'est pas l'oxygène qui va le rendre plus performant. Par contre, effet psychique, à mon avis, très douteux pour être un premier pas vers le dopage. Deuxième élément tout à fait intéressant, le Thomas en question, je le connais bien parce que c'est mon fils, et quand je lui dis que je vais quand même aller dire un petit mot au médecin responsable de la section de rugby et à l'entraîneur, il me supplie de n'en rien faire parce que, bien entendu, il craignait les sanctions et il craignait de ne plus jouer. Sport et fatigue. Fatigue physique, fatigue psychique, baisse des performances, tristesse de l'enfant et demande des médicaments par les parents. C'est des situations qui ne sont pas rares. Docteur, je viens chercher un petit remontant, je viens chercher des vitamines, je viens chercher quelque chose. Alors on n'ose pas dire je viens chercher quelque chose pour qu'il ou qu'elle augmente ses performances. On dit je viens chercher quelque chose pour traiter sa fatigue. Alors que le traitement de la fatigue, eh bien, c'est de baisser le niveau d'entraînement sans médicaments, bien sûr. La pression psychique et la maltraitance psychique est extrêmement forte dans ces situations, mais comment la mesurer? Qui peut la mesurer? C'est extrêmement difficile. Désir de plaire aux parents et à l'entraîneur, de la fatigue au dopage, on n'en est pas loin, pression des entraîneurs, punition, brimade, humiliation, chantage, désir d'ascension sociale. Sport et abus sexuels, je vais aller rapidement sur ce sujet puisqu'il y aura une session qui est consacrée demain à ce sujet. Léa, 8 ans, attouchement sexuel dans les vestiaires, tout ça favorisé par douche, promiscuité, déplacement, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Sport et traumatisme. Certes, les traumatismes font partie du sport. On estime que d'une tranche d'âge d'adolescent, 45% des consultations pour traumatisme sont survenus en milieu sportif, alors que c'est 10% chez un enfant de 5 ans. Donc évidemment, l'adolescent se blesse au sport. Bon, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire de sport, bien sûr. Les traumatismes répétés sont particulièrement responsables de ce que les anglo-saxons appellent « overuse injuries ». C'est des apophysites de croissance. Des troubles au niveau, donc, qui sont généralement pas forcément graves et qui n'entraîneront pas de conséquences à long terme au niveau des genoux, au niveau des pieds, un peu plus grave au niveau du rachis. J'ai trouvé une publication du centre de formation de Manchester United que j'ai trouvé assez intéressant parce qu'il propose de classer les enfants donc, dans ce club de football, non pas selon leur âge légal, mais selon leur âge osseux. Je trouve que l'idée est assez intéressante et mériterait d'être un petit peu plus utilisée. Sport et puberté. Alors, c'est un débat qui a été très très long, de nombreux articles sur le sujet. Est-ce que l'entraînement intensif est la cause d'un retard pubertaire? Est-ce que les filles promises à un retard pubertaire sont plus performantes dans certains sports, donc sélectionnées dans certains sports? Il y a eu des articles qui ont montré que sport et retard pubertaire, c'était le premier cas, et que sport et retard pubertaire, c'était le deuxième cas. Donc, c'est un débat assez difficile. Chez les garçons, ce débat n'a pas eu lieu ou peu eu lieu, car il semble que les garçons, même soumis à un entraînement physique intensif, n'aient pas de retard pubertaire. Donc, sport et puberté, ça a été bien étudié chez les gymnastes, et il y a de nombreux papiers qui ont été faits à l'occasion de championnats du monde, de championnats d'Europe, de grandes compétitions internationales, où des médecins du sport ont pu examiner des gymnastes de haut niveau, donc des filles essentiellement. Ce qui ressort dans une mise au point, là, dont j'ai donné la référence, c'est qu'il y a incontestablement, chez les gymnastes filles de haut niveau, un retard pubertaire. 1 à 2 ans de retard pour les premières règles, avec, en plus, chez celles qui ont déjà été réglées, une aménorrhée secondaire possible. La taille adulte, c'est quand même important de le dire, la taille adulte est conforme à la taille prévue. Même si la fille a un retard pubertaire, même si la fille a un retard de croissance, il semble que ce retard pubertaire et ce retard de croissance soient transitoires et que ça se corrige à l'âge adulte. Sauf si, bien entendu, il y a un retard, il y a un défaut calorique avec des filles qui, volontairement ou sur pression des entraîneurs, ont un déficit calorique. Il a également été fait de nombreuses études sur la minéralisation osseuse. Les pédiatres savent bien que c'est au moment de la puberté que la fille stocke sur ses os son stock de calcium dont elle aura besoin et dont elle aura particulièrement besoin en période postménopausique. Eh bien, il semble que, là encore, s'il n'y a pas de déficit calorique, le stock de minéralisation osseuse chez les jeunes adultes, anciennes enfants sportives ou anciennes adolescentes sportives de haut niveau, soit le même. Donc, quand même, probablement, pas d'effet à long terme très délétère. La malnutrition dans le sport est quand même un risque important, avec, dans certains sports, le désir ou l'obligation de perdre du poids. Un déficit en fer est fréquent. Il est déjà fréquent chez les adolescentes standards, non sportives de haut niveau, puisque les filles perdent du sang si elles ont notamment des règles un peu importantes, elles vont perdre du fer. Mais comme également le fer est indispensable pour entrer dans la composition du muscle, on comprend bien que quelqu'un qui va augmenter de manière assez importante son capital musculaire va avoir besoin de fer. Il y a des situations sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant et qui sont des situations à risque, des situations que je viens de décrire précédemment. Les parents sportifs déçus, le père ou la mère qui aurait voulu être sportif de haut niveau et qui n'y a pas réussi et qui fait une projection sur son enfant à sa place, que son enfant réussisse là où il ou elle n'a pas réussi. Le père ou la mère entraîneur de l'enfant, c'est sûrement aussi une situation à risque et la littérature journalistique a fait gorge chaude de Surya Bonaly et de sa mère, de Marie Pierce et de son père. J'entendais ce matin en venant, j'ai oublié son prénom, mais la championne de tennis, sœur de Marat Safin, qui va mieux sur le plan sportif maintenant qu'elle a coupé les liens avec sa mère qui n'est plus son entraîneuse et avec son frère qui n'est plus son entraîneur. Donc la famille entraîneur ou entraîneuse, c'est sûrement un facteur de risque de situation comme ça. L'éloignement de l'enfant de la famille et la deuxième ou troisième plaque que j'ai montrée avec cette petite fille dans une section sport-études à Toulon alors qu'elle habitait Pau, à 800 km de chez ses parents, est sûrement un facteur de risque par l'isolement alors qu'elle était en sixième, donc toute petite. Et puis on a parlé ce matin de l'Afrique qui est un endroit de recrutement privilégié pour des adolescents mineurs, peut-être futurs stars du football, mais pour beaucoup d'entre eux, rejetés parce que ne devenant pas stars et dont l'évolution est sûrement tout à fait catastrophique. C'est clairement une forme de maltraitance. Quels sont les sports les plus à risque? C'est pas, même si j'ai mis une diapo sur le rugby, pour bien jouer au rugby, il n'y a pas besoin de commencer à 4 ans, je pense. Enfin, je ne suis pas spécialiste. On doit pouvoir commencer plus tard. On doit pouvoir commencer plus tard à un âge où on est capable de dire non et où on est capable de dire oui. Par contre, sur les sports où pour être très performant, il faut commencer très jeune, la gymnastique, la danse, le patinage artistique, le tennis, commencer à 4 ans ou à 5 ans, quelles sont les capacités pour un enfant de 4 ans ou de 5 ans de dire non à papa-maman, de dire non à l'entraîneur? Voilà, ça c'est un petit moine de Shaolin. Ses capacités à dire non me paraissent probablement inexistantes. Alors, un moyen simple que moi j'utilise dans ma pratique, qui est totalement non scientifique et totalement validé par rien du tout, mais qui permet d'avoir les idées un peu claires, c'est que l'hyperentraînement pourrait être défini comme une heure par semaine par année d'âge. C'est-à-dire qu'un enfant de 7 ans ne doit pas faire plus que 7 heures de sport par semaine. Un enfant de 10 ans, pas plus de 10 heures de sport par semaine. Il faut savoir protéger l'enfant. Si les parents ne savent pas le protéger, car souvent ils ne savent pas le protéger, si les entraîneurs ne savent pas le protéger, car souvent ils ne savent pas, ils n'ont pas envie de le protéger, eh bien, au moins il faut que ce soit le médecin généraliste ou le pédiatre ou le médecin du sport qui protège cet enfant en lui interdisant la pratique du sport de temps en temps. Et puis voilà les 10 commandements qui ont été publiés par l'Office de la jeunesse helvétique et qui me paraissent assez sympathiques. L'enfant a le droit de faire du sport, bien sûr, pour le plaisir, mais il a le droit de jouer. Il a droit à un milieu sain, pas d'entraîneur véreux qui lui fait des abus sexuels. Il a droit au respect et à la dignité, il n'a pas le droit de se faire engueuler. Il a droit à un entraîneur compétent, c'est-à-dire formé. Attention aux bénévoles, il y a peut-être des bénévoles très bien, mais attention. Il a droit à des compétitions adaptées, à son niveau physiologique plus qu'à son niveau d'âge. Hein, et j'ai bien aimé l'utilisation de l'âge osseux. Il a droit à se mesurer à des jeunes de niveau voisin. Il a droit à la santé sans dopage. Il a droit au repos. Et enfin, il a tout à fait le droit à ne pas être champion. Je vous remercie.
Je remercie en votre nom le docteur Chulot qui s'est bien tenu à la mission qui lui avait été donnée, c'est-à-dire de montrer quels étaient les dommages induits par des pratiques sportives. Je le remercie aussi d'avoir cité nos confrères helvétiques qui, avec leur rigueur, ont mis des barrières, mais des barrières positives, ce qui est quand même un changement par rapport à ce que nous faisons dans notre culture française où il est dit « Surtout ne fais pas ça, mon petit, parce que tu es vilain ». Je crois que ça, c'est tout à fait différent. Vous allez voir que c'est tout à fait la même manière d'aborder les choses et qu'il va y avoir une cohérence entre les deux orateurs. Et je donne à Marie-Carole Paruy, dont j'apprécie toujours les interventions, la parole sur entraînement sportif intensif, entraînement abusif et maltraitance.
Je vous remercie. Je remercie Sabine Afflelou de son invitation. Dans un premier temps, lors de cette invitation, répondu que je n'étais pas compétente en maltraitance. Et puis, réflexion faite dans la discussion, j'ai eu à intervenir à plusieurs reprises sur ce sujet et j'ai fait un petit peu le récapitulatif et des dossiers et des discussions au niveau national ou européen auxquelles j'ai pu participer. Le titre était proposé à la suite de ces discussions. Entraînement sportif intensif, entraînement abusif, qui pour moi n'est pas la même chose et je vous expliquerai pourquoi. On a eu des discussions jusqu'à l'Académie de médecine sur ces termes-là. Et maltraitance. Alors en ce qui concerne les risques de maltraitance, si on reprend la littérature, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. On retrouve énormément de citations, de situations qui sont décrites. Je pense que Brigitte Chabrol de Marseille a écrit dans les archives de pédiatrie en 2007, elle a remis un petit peu au goût du jour le fait qu'il y ait des situations en pratique sportive qui s'avoisinaient à de la maltraitance. Et je trouve que Brigitte, là, a bien un peu posé le problème. C'est-à-dire on ne sait pas trop où se poser. On l'appelle maltraitance, on l'appelle entraînement intensif. Et c'est ça que j'aimerais essayer de faire avec vous, au moins sur ces journées de réflexion. Il y a quand même des gens qui ont dit ça depuis très longtemps. Si on prend le médecin de l'escrime, Jace, en 98, il avait dit « L'enfant, sur ses entraînements intensifs, peut être victime d'entraînement abusif ». Donc ce n'est pas nouveau comme réflexion. Si on prend aussi tous les papiers de Jacques Personne, il en a écrit plus de 40, dont deux bouquins, il avait des titres très percutants, mais qui avaient l'attention, au moins l'avantage d'attirer l'attention de façon sévère. Donc les publications de Jacques Personne, c'est « Des assassins dans les vestiaires d'enfants », déjà on a le sujet. « Il faut stopper le massacre des innocents ». Et aucune médaille, enfin j'ai pris les plus percutantes quand même, aucune médaille ne vaut la santé d'un enfant. Moi j'ai souvent fait des interventions autrefois avec Jacques Personne. Il colligeait en permanence tout ce qui paraissait dans la littérature médicale et tout ce qui paraissait dans la littérature, dans les journaux. Donc en fait ces ouvrages, c'est vraiment, on empile des histoires de chasse dont vous avez parlé. Et à la fin, j'étais plus très d'accord avec Jacques Personne parce que je lui dis ben, c'est haro sur le sport, mais que fait-on? Conduite à tenir, où en est-on? Et là, ben, il était invité pour parler de ça, mais on n'avançait pas, nous, en consultation. Alors, ensuite, j'ai quand même rencontré beaucoup de confrères, notamment en pédiatrie. C'est une attitude assez commune. C'est d'assimiler, quand on ne connaît pas bien le milieu du sport et le sport de haut niveau, et les centres de haut niveau, c'est assimiler systématiquement l'entraînement intensif, et on ne sait pas trop à quoi ça correspond, à une maltraitance. Et ça, c'est des raccourcis qu'on voit tout le temps dans les conversations. Alors, moi, j'ai souvent trouvé qu'il y avait quand même une méconnaissance des conditions d'entraînement et des conditions de surveillance. Et puis, ce sont des confrères qui sont coupés du terrain sportif, c'est-à-dire que moi, si j'ai un problème, je vais appeler le CTR, le président de la Fédé. Je pense que nous avons ou le juge pour enfants. Mais je pense qu'il ne faut pas être coupé du milieu pratique. Et puis on voit aussi sur le plan médical des décisions qui nous desservent. C'est-à-dire que quand un confrère met pour un sevère une inaptitude de 2 ans, alors qu'on sait que les douleurs vont disparaître dans les 8 jours, et qu'on ne peut pas déontologiquement intervenir par-dessus, ça commence à poser une série de problèmes, ce qui explique le nomadisme médical et un certain nombre de dérives. Et puis j'ai vu aussi des changements injustifiés, par exemple, pour un Osgood, il est interdit de sport et on le met en basket, mais le basket est bien plus pourvoyeur d'Osgood que le tennis. Donc il y a ce problème qui existe sur quand même un manque d'informations dans la vie pratique. Alors dans ce contexte-là, j'ai été nommée à la Société française de pédiatrie avec le professeur Duhamel, le médecin de l'INSEP, pour monter une commission de réflexion et on est ouvert à lancer les thèmes et on a travaillé depuis plusieurs années ensemble sur certains dossiers et avec des conduites à tenir pratiques. Et puis les pédiatres libéraux aussi avec l'AFPA, c'est l'Association française de pédiatrie ambulatoire, a souhaité faire tout un congrès, tout un colloque avec des séminaires sur l'explication de l'entraînement intensif pour qu'il y ait un débat pour un peu sortir de ces poncifs qui sont toujours entraînement intensif et maltraitance. En passant, pratiquement aucun de mes confrères connaissait correctement, était capable de citer la loi de 2004 et connaissait bien le fonctionnement sur les bilans psychologiques qui sont dans les décrets de 2006. Sur le plan personnel, maltraitance et sport, moi, au cours de ma carrière, j'ai eu toute une série de dossiers pour lesquels j'ai fait des signalements. Ce que je constate, c'est qu'on médiatise, on décrit certains dossiers, on décrit les histoires de chasse, mais quand je suis dans des FMC, si on fait le tour de la table, tous ont une histoire, aucun n'a fait un signalement. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire qu'on pérennise des situations un peu glauques qui ne sont pas traitées. Alors, en signalement simple, pour éliminer un tableau clinique très classique, nous avons eu sur les régionaux de tennis en Pays de Loire un enfant qui, ayant perdu les régionaux, c'est quand même, faut relativiser, est sorti du cours devant la presse, devant l'ensemble du comité directeur, devant tous les parents, tous les enfants, et s'est pris une raclée. Le lendemain, dans le journal, il y avait le tennis et le résultat des défaites. Donc là, ça fait électrochoc parce qu'ils ont été obligés d'intervenir, de réunir, d'écrire aux parents et de convoquer l'enfant. Et finalement, on a pu mettre en place une conduite à tenir fédérale en disant les dirigeants ne savent pas comment faire, tant pis, il y a un médecin de ligue, il y a une unité d'enfance en danger à Nantes, ils n'ont qu'à faire les démarches nécessaires, il suffit de signaler. Et c'est après ces gens-là qui décideront ou non de faire le signalement ou de discuter le dossier auprès du procureur ou du juge. Donc voilà, en fait, l'enfant en question, il était battu régulièrement, pas que dans le cadre du tennis, et on a abouti à une surveillance ASE. Alors là, on a été un petit peu aussi déçus parce qu'on n'a pas été pris au sérieux dans notre signalement auprès de l'ASE. Je pense qu'ils ont des dossiers beaucoup plus graves que notre histoire de match de tennis, mais ils m'ont répondu, le sport c'est bon pour la santé, alors on ne va pas l'empêcher de faire du sport. Et là, on a quand même un fossé entre la réalité du terrain où nous on demande un signalement correct et la réalité après de la prise en charge. Donc avec ces déboires de signalement, j'avais quand même transmis les dossiers au ministère de la Jeunesse et Sports, parce qu'il y a quand même au bureau des sports un bureau de la protection du sportif, et il se trouvait qu'il y avait d'autres médecins comme moi en France qui avaient signalé et rapporté les mêmes cas, les mêmes non-conduites à tenir, et puis on était à l'époque en 2000 avec des sélections de plus en plus précoces. Avant, on était en tennis qu'à 10 ans. Là, on est à 5 ans, donc ça s'est dégradé dans les sélections et la mise en place de la compétition. Il y avait des carences de suivi. Il n'y avait pas la loi de 2004 en place. Donc les enfants, vous pouviez demander à ce qu'ils soient vus, mais ils n'étaient pas vus. Les parents ne vous les amenaient pas. Donc on avait effectivement des gymnastes qui pouvaient être considérés comme en danger sur le plan nutritionnel et sur le plan biomécanique. Et puis, il y avait des cas de polytraumatologie qu'on ne peut plus supporter. avec des enfants opérés, réopérés sur des genoux, sur des ligamentoplasties qui pètent avant 18 ans. Je crois que personne n'en parle, mais c'est quand même des handicaps futurs qu'on génère comme ça, et il faut vraiment en parler et en le signaler. Alors, au ministère, ils nous ont proposé de faire une coordination sur ces risques de l'entraînement intensif. C'est une étude que j'ai pu coordonner pendant plusieurs années. Ils voulaient toutes les publications. On a fait un peu le point de tous les risques. Or, les risques, vous connaissez bien les risques psychologiques, mais si je vous demande les risques traumataux et que ce n'est pas votre spécialité, il faut aller les chercher ailleurs. Et on avait ce problème de répartition dans des spécialités différentes. Or, l'enfant, il peut avoir une sommation des différents risques avec ses entraînements intensifs. Donc, on s'est mis toute une bande. On était près d'une centaine à intervenir sur des réunions à thème. Et on a abouti déjà à une définition commune. Alors, on retombe sur votre définition non scientifique, mais elle n'est pas plus scientifique que la nôtre, sauf qu'elle est consensuelle sur une 90 personnes. Parce qu'on a repris la littérature, et dans la littérature, on n'a pas trouvé de définition chez les Américains ou dans d'autres produits. Par contre, on est reparti du fait qu'au-delà de 10 heures d'entraînement pour plus de 10 ans, on a des pathologies de surmenage. En fait, on a défini à partir d'un risque, et chez le plus de 5 ans, c'est, moi j'irais beaucoup moins, c'est 3 à 6 heures, si c'est un entraînement qui est mené à un rythme qui n'est pas forcément adapté à la physiologie de l'âge. Et ça, on pourra en reparler. Alors, les risques, on les a listés, on va passer très rapidement, puisque vous l'avez fait de façon beaucoup plus détaillée. À partir du moment où ils sont décrits et qu'ils sont présents dans un dossier, nous, on peut le signaler. On n'avait pas de base de référence. Donc, cassure de la courbe de croissance, ou courbe à moins 2DS, ou vitesse de croissance nulle à 2 bilans, moi, je vais intervenir. Retard pubertaire, ça se discute, il faut peut-être faire l'âge osseux également dans ce cas-là. Et aménorrhée, il n'y a pas beaucoup de gens qui bougent sur des filles qui sont aménorrhées primaires ou secondaires, mais ça les arrange. Donc je crois que ça fait partie des critères qui doivent faire l'objet d'un bilan complémentaire obligatoire. Carences nutritionnelles, elles font le lit du retentissement sur la croissance. Donc c'est apport calorique insuffisant. En 2000, quand on a fait ces travaux, il y avait eu juste la publication de l'AFSA sur apport nutritionnel conseillé de l'enfant, apport nutritionnel, un autre chapitre du sportif adulte. Il n'y avait rien sur les ANC de l'enfant sportif. Comment voulez-vous dire à un père de gymnaste que c'est une maltraitance qui ne donne pas 3000 calories alors que c'est la référence si elle s'entraîne tant d'heures d'entraînement par semaine? On n'avait pas ces éléments-là. Du coup, le ministère a saisi l'AFSA et en 2004, on a eu les ANC de l'enfant sportif. Donc maintenant, on peut dire, vous le laissez manger à la cantine, il n'a pas de collation, il est forcément déficitaire. Donc si vous avez un retentissement sur l'organisme, c'est-à-dire un pourcentage de graisse anormalement bas ou une cassure de croissance, eh bien, vous avez des éléments suffisants pour dire que c'est en train de retentir sur son organisme. Les ferritines doivent être faites systématiquement. Et pour l'hydratation, on a les pesées, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et puis, il y a tout ce problème de surveiller les courbes de croissance pour, si, avec un bilan diététique correct, des ANC, c'est-à-dire l'enfant a ce qu'il faut comme nutriments, on a toujours un retentissement morphologique, il faut se poser la question des troubles des conduites alimentaires et les faire prendre en charge rapidement, pas l'année prochaine, pas quand elle se fait vomir. Ce qui me frappe, c'est de voir des courbes de croissance arriver qui ne bougent pas. C'est marqué dans les carnets de santé, dans les carnets de sportifs, mais ça ne bouge pas. Et puis les risques psychologiques, je pense qu'on a encore beaucoup de travail là-dessus, enfin nous, pour nous former, et on fait ce travail avec Stéphane Prétagut, c'est que le médecin du sport, qui est proche du centre, puisse repérer les signes de souffrance précoces, mais il faut aussi que les centres de psycho du sport soient nombreux et puissent répondre à la demande dans la semaine. Stéphane a vu cette semaine qu'il n'allait pas bien avant les régionaux, mais ailleurs, on me l'a proposé, un rendez-vous en juillet. Certains qu'en juillet, ils seront sûrement plus là. Alors ça, c'était la partie qui me paraît la plus urgente à travailler. Les risques micro-traumatiques, pour nous, le travail est presque fini. Pour les plus fréquents des risques, c'est ostéochondrose. Le docteur Chourlot l'a évoqué, mais on a suffisamment travaillé pour s'en débarrasser. Je pense qu'il y a des choses comme fracture de fatigue qu'on ne devrait jamais voir. Parce que, en fait, ce sont des douleurs de périostite qui traînent longtemps. Il est rare qu'il y ait vraiment une fracture d'emblée, ou alors il faut vraiment avoir fait des erreurs d'entraînement très importantes. Et puis, spondylolyse, vous l'avez évoqué. Donc, en ce qui concerne l'Osgood, maintenant, avec la Société française de pédiatrie, on a mis une conduite à tenir en place qui a été publiée, je pense, au congrès de Rouen il y a un an, pour qu'on ait une conduite univoque. Et dans le cas de cette diapositive, moi, je mettrais inapte, et dans aucun autre cas. Par contre, on a été plus loin, c'est qu'on a moins d'Osgood parce qu'on supprime les mouvements nocifs. Et c'est là où on va discuter avec l'entraîneur en disant exercice de chaise interdit, multibond interdit au moment du pic de croissance, au moment des premières douleurs, si c'est signalé à l'entraînement. Pour le sever, c'est pareil. Tiens. Bon, bah, c'était des résultats de travaux sur du sever. En 2000, avant que les enfants en tennis soient sélectionnés, les enfants en 2000 n'étaient pas sélectionnés avant 11 ans. On avait zéro sever. À partir de 2000, arrivée de Dominguez en tennis, ils sont systématiquement sélectionnés à partir de 8 ans. On a 90% de sever sur un mémoire de médecine du sport qu'on a fait en 2003. Actuellement, on a fait des interventions comme le recommandait l'Académie américaine de pédiatrie avec réunion parents-entraîneurs-enfants. Et actuellement, il y a un signalement de la douleur dès les premières douleurs dans la première semaine, radio et conduite à tenir. Donc on n'a plus d'arrêt pour cette raison-là. L'autre cause importante dont on ne parle pas souvent, c'est les lésions musculaires. Vous avez eu l'exemple de Mila. C'est ce qu'on vit toutes les semaines sur les centres de haut niveau. Et voilà une étude qu'on avait faite en tennis, mais on a ça pour les autres pôles, ça a été publié. En fait, ça représente 58% des consultations médicales. Mais on peut intervenir en travaillant sur les durées d'exercice pour faire baisser ces statistiques, et on est encore en train de travailler sur les temps d'exercice et les temps de récupération actuellement qui nous permettent d'avoir beaucoup moins de traumatologie. L'autre point d'appel, c'est la douleur, parce que si on résume toute la micro-traumato, c'est que des douleurs. C'est douleur genoux, talons, muscles, c'est douleur. Donc à un moment donné, on se dit, c'est pas normal de mettre l'enfant en condition de douleur systématique. Donc il faut absolument qu'on évalue cette douleur et qu'on intervienne très tôt. Donc on fait des scorings tous les jours maintenant pour que l'enfant évalue sa douleur. Donc on ne va pas s'inquiéter s'il a mal à un ischio, mais le lendemain il a mal au biceps. Bon, on a des courbatures, c'est des lésions, des micro-lésions connues. Par contre, si 3 jours de suite il a mal ou si évidemment il y a une impotence, là ça ne se discute plus. Du coup, on a une conduite à tenir au-delà d'un score de 5 signalé par un enfant, c'est avis médical. Parce qu'il y avait un petit peu un flou pour les entraîneurs qui ne savaient pas quand montrer l'enfant au médecin. Je vous rappelle les mouvements, dans le cadre des mouvements nocifs, que les souplesses arrière. Moi, je les ai interdites en tennis parce qu'on a eu des fractures de fatigue du rachis chez les enfants de 9 ans qui voulaient faire des services comme les pros à la télé. Et en gymnastique, chez les toutes petites, c'est ça qui explique ces lésions de la charnière. Alors, on s'est réunis à Gand à la demande de des professeurs de l'Université de Louvain sur un congrès qui réunissait Sport Management, 3000 personnes, et on a eu un petit peu le courage de traiter de maltraitance en sport devant cette masse. C'était pas facile, mais on y est arrivé, et tout est colligé, après les articles ont été rédigés, ils sont dans un bouquin dont je vous ai mis la référence, qui regroupe tous les cas de maltraitance traités par les Européens. Donc il y avait les études allemandes qui font un travail important d'épidémiologie et de prévention, les études anglaises, et on a abouti à la charte que nous a présentée notre confrère, et ça s'est passé sur le congrès de Gand en 2003, puisque le Suisse était rédacteur de la charte. Alors il m'avait demandé de revoir quelles étaient les circonstances de maltraitance en milieu sportif pour qu'on fasse une prévention. Donc j'ai repris une définition très simple, violence physique, on ne discute pas, je pense qu'il faut faire un signalement. Par contre, il y a d'autres violences physiques qu'on peut évoquer, qui ne feront peut-être pas l'objet d'un signalement, mais pour lequel il faut peut-être aller plus loin dans la réflexion. Par exemple, les différences de gabarit. Si vous vous faites massacrer avec une différence de gabarit, ou par exemple, j'ai eu des marfans qui avaient des ligamentoplasties, alors que j'avais interdit le sport compte tenu de l'hyperlaxité, l'enfant est mis par quelqu'un d'autre sur le pôle, et la rupture a lieu avec arrachement des épines tibiales. Où en est-on de la maltraitance, là? Les parents ont poussé, l'entraîneur a poussé. Là, je pense que c'est une maltraitance parce que c'était prévisible et qu'il y a un retentissement grave sur l'organisme. On voit actuellement, à titre mineur, et moi je l'interdis sur les centres dont je m'occupe, des gages en cas d'erreur d'entraînement. C'est-à-dire s'il loupe sa balle 10 fois, il la sort 10 fois, ils vont aller à 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, faire des pompes, des séries de pompes ou des séries d'abdominaux. Et ce n'est pas rare dans la culture sportive que de mettre ce genre de punition. Mais moi, j'ai vu des lésions musculaires relativement importantes sur ces exercices qui sont inappropriés. Autre violence, c'est cette accidentologie que je trouve vraiment très très grave, qui concerne des entorses graves des genoux, et plus des 3/4 de l'équipe de France jeune a été opérée d'une ligamentoplastie. Des lésions méniscales qui sont associées, qui vont assurer qu'après 30 ans, il y aura de toute façon un handicap, une arthrose précoce, et après, ils ne sont plus en centre de haut niveau, mais nous, on les a toujours en consultation. Et je pense qu'à force de colliger ces cas, il va quand même falloir faire quelque chose dans la prévention. C'est la même chose pour ceux qui, avant 18 ans, sont opérés de hernie discale. J'en ai vu en tennis et en judo. Ou de fractures de fatigue dont on peut se passer. Autre carence ou négligence de soins, c'est les entraîneurs qui refusent de prévoir les bilans médicaux. Avec la loi de 2004, c'est un problème qui est réglé, puisqu'ils ne sont pas payés. Donc là, on a un moyen de pression et ça marche. Et reprise de compétition avant avis du médecin ou déplâtrage précoce. J'ai eu le cas d'un jeune pour faire les championnats de France qui a été déplâtré 3 fois. Je l'ai replâtré 1 fois, 2 fois, et le père le déplâtrait aussi sec. Donc je me suis demandé si quelqu'un me prendrait mon signalement dans ce cas-là pour carence de soins. Bon, ça n'a pas été plus loin. Absence de prise en compte de la douleur, on peut se demander, on a vu des fractures de fatigue qui sont non traitées, des enfants qui continuent à souffrir, on comprend qu'ils aillent sur l'automédication ou sur le dopage. Sur le plan psychologique, la décompensation des troubles addictifs a été déjà évoquée, moi je l'ai rencontrée en danse, on a eu une épidémie de tentatives de suicide dans un conservatoire, donc je pense que c'est à surveiller. Et c'est des populations à très haut risque. En ce qui concerne les sévices psychologiques, vous avez abordé les violences verbales. Je pense qu'il faut les signaler, ou il faut intervenir, ou il faut qu'elles cessent. Parce que personne ne dit jamais rien, et dans ces cas-là, ça peut être extrêmement grave. Les carences d'apport, vous avez évoqué aussi les régimes imposés. Moi, je pense que jusqu'à une certaine limite, il faudra envisager un signalement. S'il y a un retentissement sévère sur l'organisme, on ne peut pas pérenniser cette situation. Alors, s'il n'y a aucun retentissement sur l'organisme, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à s'entraîner de façon importante. Et ça, on manque un peu de statistiques, mais c'est ce qu'on vit quand même tous les jours quand on arrive à faire de la prévention. Par contre, j'ai vu en consultation des entraînements, ce que j'appelle abusifs, et l'Académie de médecine avait accepté de soutenir cette idée de définition parce qu'on avait présenté une série de cas, par exemple un cycliste de 9 ans que le père obligeait à faire 100 km tous les dimanches. Bon, il est arrivé dans un état physiologique de faiblesse importante, de retard, de retentissement scolaire et de troubles psychologiques. C'est ce qu'on voit dans les marathons. Actuellement, c'est la mode. Beaucoup d'enfants, beaucoup de pères de marathoniens emmènent leurs enfants sur des longues distances. Et en triathlon, chez nous, ça commence à devenir assez important à la mode. Alors, vous savez qu'il y a des recommandations américaines. Vous les avez pour chaque spécialité, pour le triathlon, pour les longues distances chez l'enfant. Elles sont publiées par l'Académie américaine de pédiatrie. Le problème, c'est que très peu de gens vont lire Pediatrics dans le texte et ne vont pas chercher ces recommandations qui existent. Donc, ma définition très simple, c'est si l'enfant a un retentissement sur la croissance, un retentissement ostéo-articulaire, un retentissement et ou psychologique, et si on lui impose des distances pour la fédé de cyclisme, le maximum pour son âge, c'est 30 km, et que l'enfant fasse 100, c'est une maltraitance. Et moi, je l'ai signalé en ce sens-là, et ça a été pris comme signalement. Je pense qu'on ne parle pas beaucoup des conditions thermiques. Vous avez évoqué un cas en altitude. Actuellement, il y a le problème des risques de coups de chaleur avec les jeunes. On les fait jouer entre midi et deux, parce que les pros ou les vieux ne veulent pas jouer à ces heures-là. Mais par contre, ils n'ont pas de règlement propre à leur pratique. Donc on a mis ça en place l'année dernière à la suite d'un congrès à Roland-Garros. En ambiance froide aussi, vous avez de volets où ils ne vont pas jouer au-delà de 11 degrés, je crois. Mais par contre, en tennis, vous êtes obligé de rentrer sur le court par moins 5 ou quelle que soit la température, en jupette. Donc je pense qu'il y a encore des petites choses à revoir dans les règlements. En ce qui concerne l'épidémiologie, c'est une épidémiologie qui n'est pas si simple que ça, parce qu'elle ne peut être que par sport. Si on veut avoir les risques biomécaniques, c'est forcément des petites populations. Sur l'épaule, ils ne sont que 8 ou une dizaine en général. Ensuite, c'est un projet individuel du jeune. Plus ils montent, plus ils sont peu nombreux pour les stats. Et puis, il y a quand même une inertie, pour ne pas dire autre chose, des fédérations, en sachant aussi que le turnover est de 40 à 50%. Sur la fédé de tennis cette année, il y en a 100 qui vont partir sur les 450. Donc il reste des fois qu'un an sur les listes. Et puis, jamais de statistiques sur ceux qui vont bien. Et c'est un petit peu dommage, parce que du coup, on ne parle que des histoires de chasse et que de la maltraitance. Alors je vous rappelle quand même que moi, je trouve que la vie a changé depuis la loi de 2004. Tout n'est pas appliqué encore à tous les sportifs, mais c'est quand même mis en place. On peut aussi envisager avec les commissions Société française de médecine du sport ou Société française de pédiatrie de travailler sur des thèmes, sur de la prévention. Et puis je vous ai mis la recommandation de l'Académie américaine de pédiatrie qui s'est énervée en 2007 parce qu'ils avaient 50% d'ostéochondrose et de pathologies de surmenage, notamment psychologiques. Donc ils ont recommandé encore de faire la formation des jeunes, la prévention des pathologies avec les familles et les coachs. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, sur nos pôles. En conclusion, moi, je crois que pour moi, médecin du sport basique, la maltraitance, elle doit être signalée. Donc, c'est pas compliqué, il n'y a pas de discussion. On peut prévenir certaines situations si on a une surveillance proche. Si il y a une épidémiologie, on réagira. S'il y a 7 épaules sur 8 blessées sur un centre, par exemple, on va aller se poser la question de l'abus de mouvement. Le scoring peut nous rendre des services, les contacts avec l'entourage de l'enfant, mais en tout cas, il faut qu'on soit disponible rapidement, pas 2 mois après. Et puis, le dépistage des pathologies de surmenage, il doit être fait systématiquement. On peut modifier les règlements. Moi, j'ai fait modifier avec le groupe de la Fédé de tennis. On est passé à des balles souples. On a changé les formats de jeu des tout-petits. On n'a plus d'ostéochondrose du coude cette année. Donc je pense qu'on peut agir à différents niveaux pour être efficace. Et puis il ne faut pas oublier non plus que le sport et l'avantage de la bientraitance en sport, puisqu'on ne parle que de maltraitance, on peut prendre le terme de bientraitance qui a déjà été utilisé il n'y a pas longtemps en pédiatrie, c'est absence de blessures, pas d'arrêt, des victoires si possible, des voyages sympas, c'est ce que racontent les jeunes quand même, ils n'ont pas toujours envie de gagner, mais ils ont envie de voyager. Et pour certains des carrières, quand je vous disais que j'intervenais avec Jacques Personne, j'intervenais aussi avec Christine Caron, qui nous disait « Mais qu'est-ce que vous me dérangez à dire que je m'entraînais à 6 heures du matin, que c'était dur et tout ? J'ai fait une carrière extraordinaire que j'aurais jamais fait dans mon HLM. » Donc il faut garder dans un coin de l'esprit ces avantages. Donc pas à n'importe quel prix, possible sans blessure, avec une bonne prévention. Je vous remercie.
Merci Madame Parhuit, à la fois pour la clarté de votre exposé, pour sa documentation et aussi pour le témoignage que ça nous donne dans votre l'activité personnelle. Quand on a une médecine appliquée aux pratiques sportives de bon niveau, quand on a la capacité de convaincre les autres, on arrive à faire quelque chose. Nous avons une grande carence dans notre pays, dans la médecine du sport, elle est en train de s'améliorer, mais nous avons aussi à développer les habiletés pour convaincre. Et ça, c'est important. Et une grande partie de ce que vous avez dit, là, nous montre les habiletés que vous avez à convaincre en vous appuyant, non pas sur l'idée du sport comme une exception, mais l'idée du sport comme un cas particulier d'un ensemble plus général. Et c'est pourquoi toutes les académies sont susceptibles de concourir à des actions à partir de petits points de détail qui sont spécifiques et originaux. Et je crois que c'est intéressant. Puis vous nous avez permis aussi de regarder quels étaient les grands points. Avoir une culture commune, quand vous différenciez l'entraînement intensif de l'entraînement abusif. Il faut se rappeler qu'abusif, ça a été très utilisé par les anglo-saxons, c'est abuse. C'est-à-dire pas la quantité, mais le fait qu'il survient des dommages. Et c'est ça qui est le fait important. Et je crois que quand on évoque les dommages, et là c'est une petite carence à tous les deux, il n'y a pas, vous l'avez subtilement évoqué mais discrètement, ce sont les dommages à distance. Vous l'avez évoqué tous les deux, quand on constitue son stock minéral osseux, qui sera utile lorsque nos compagnes auront un certain âge. Bon, je crois que c'est très important. Qu'est-ce qu'il en est à distance? Qu'est-ce qu'il en est des modalités d'appréhension d'une difficulté? Qu'est-ce qu'il en est de la difficulté à demander de l'aide? Qu'est-ce qu'il en est de la capacité à gérer une difficulté? Qu'est-ce qu'il en est de la capacité à gérer le succès? Nous avons un tennisman pour lequel le problème, c'est le non-apprentissage à gérer le succès. Nous évoquions tout à l'heure le fait de la post-carrière d'un nombre de sportifs qui finissent par se trouver en difficulté parce que successivement, il y a une gestion du succès qui se fait de moins en moins bien. Et ça, c'est de tout le début. L'entraîneur est aussi un éducateur. Et ce n'est pas un éducateur de viande, c'est un éducateur de personne. Et je crois que ça, c'est très important. Et donc, quel est l'objectif d'une réunion comme celle-ci aujourd'hui? C'est comment identifier et ne pas sur-identifier, pas identifier à tort, parce que là, ça crée des dommages importants. Mais comment avoir en nous un capital de confiance qui fait qu'on va s'appuyer sur une définition solide et commune. À ce moment-là, c'est important. Et que cette définition solide et commune, elle puisse être non pas une définition du milieu de la pratique du sport, mais une définition acceptable par l'ensemble des citoyens et l'organisation citoyenne et judiciaire de notre pays. Et ça, je crois que c'est important. On n'a pas à faire dans le dérogatoire. Une idole du sport est un citoyen ou une citoyenne. Ce n'est pas quelqu'un qui a droit à quelque chose de dérogatoire. Ça, c'était autrefois avant la nuit du 4 août. Et puis, il y a un autre point que je voudrais poser avant de vous donner la parole. C'est le fait que quand on exprime les choses avec clarté, nous avons aussi une audience en médecine du sport dans l'ensemble de la société. Et je crois que ça, ces journées de psychopathologie et du sport aujourd'hui, et les deux autres, ça a cet effet-là, cet effet annexe. Quand nous parlons clairement, quand nous identifions les problèmes, quand nous construisons une culture commune, nous nous situons dans la communauté et nous situons dans une place qui n'est pas une place négligeable. Vous avez la chance à Bordeaux d'avoir des structures très importantes dans l'université, dans le CHU et dans le milieu associatif. Ce n'est pas partout la même chose, et ça, c'est notre effort. Je pense que tous les deux vous contribuez à cela. Maintenant, vous allez contribuer au débat et poser des questions.
En fait, vous avez parlé de conduite dopante. Moi, j'avais une question un petit peu par rapport aux filles, en fait, et les adolescentes. Est-ce que, comme elles sont dans une période fragile où elles doivent faire leur stock de calcium, de fer, qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'elles peuvent faire moins de sport de haut niveau ou est-ce obligées d'avoir une conduite presque prédopante pour se prémunir de ces déficits-là?
Non, je crois qu'une alimentation normale, au point de vue calorique, c'est-à-dire plus importante que le nombre de calories pris par une fille qui n'a pas d'entraînement intensif, bien sûr, parce qu'une fille qui a une consommation musculaire importante va avoir besoin de manger plus. Donc, une alimentation normale, compte tenu du fait qu'elle consomme beaucoup,
c'est suffisant. Elle n'a pas besoin de médicaments. Alors, elle n'a pas besoin de médicaments. Encore que chez les adolescents, particulièrement les adolescentes, mais aussi chez les adolescents, il est décrit un certain nombre de carences en vitamine D. Bon, on peut très bien donner 5 mg de vitamine D deux fois par an ou une fois par an à tout adolescent, adolescente, qu'il ou qu'elle soit sportif de haut niveau ou pas. Donc, c'est pas du tout dans un désir, ça s'appelle pas du dopage, c'est pas dans un désir d'améliorer les performances sportives. C'est dans un désir de apporter un stock de calcium suffisant. Oui, dans l'ampoule de vitamine D, il y a un risque de carence en vitamine D chez les adolescentes et adolescents, sportifs ou pas sportifs.
Merci.
Ce qui est gênant, c'est que la recommandation jusqu'à 15 ans n'est même pas appliquée à l'heure actuelle. On a 100% de sportifs qui arrivent sur l'épaule qui n'ont pas de vitamine D de supplémentation avant 15 ans. Donc déjà, ils partent carencés. Et nous, on a fait sur cette année la comparaison des ferritines sur ceux qui avaient un pourcentage des paramètres morphologiques normaux. Ils n'ont pas besoin de supplémentation en fer. Par contre, les filles qui refusent de manger de la viande, qui refusent d'augmenter leur ration...
Ou des règles abondantes.
Avec les règles, eh bien, ces sujets-là, on est obligé. On a toujours des ferritines basses et on a des signes fonctionnels à l'effort. Ça donne des essoufflements de fin d'effort. Pour certains, des ferritines de 6 à 12, ça donne des malaises à l'effort. Donc ça, c'est un sujet qui est quand même pas très, très appliqué.
Je crois que les deux carences que l'on peut décrire chez les adolescents, adolescentes, sportifs ou pas sportifs, c'est carence en fer, carence en vitamine D. Hein. Le reste, c'est inexistant ou quasiment inexistant.
Oui. Et moi, je voudrais revenir sur la notion d'anorexia athlética, parce que vous êtes passé assez rapidement sur cette définition, en parlant, si je me souviens bien, d'une anorexie mentale compensée, c'est le terme que vous avez employé. Je m'étais penchée un petit peu sur la question il y a quelques temps. Je trouve qu'il n'y a pas de définition vraiment très claire, c'est assez compliqué, mais il y en a une peut-être qui est à retenir et qui nous engage à être... attentif à cette population, puisque l'anorexia athlética, ça serait donc une forme d'anorexie, pas mentale, mais une forme d'anorexie que l'on trouve dans le milieu sportif, parce qu'elle est sous-tendue par la performance et pas par la peur de grossir, en fait, ce qu'on connaît de l'anorexie mentale classique. Donc, est-ce que c'est bien de cela dont on parle quand on parle d'anorexie compensée ? Parce que justement ça porte à confusion et il me semble que c'est un petit peu dangereux parce qu'on est dans un état préclinique, on est dans un état
je pense que la frontière entre les deux formes est très ténue je ne sais pas si l'ensemble de la salle le sait mais pour moi dans mon expérience de pédiatre et pédiatre d'adolescents, les troubles du comportement alimentaire depuis 4-5 ans sont en train d'exploser, hein. Pas chez les enfants sportifs de haut niveau, chez les adolescentes en général. Donc on voit beaucoup, beaucoup de troubles du comportement alimentaire, classiques si je puis dire, sauf qu'ils sont de plus en plus jeunes, très jeunes même des fois. Et par contre, l'anorexie athlética, c'est à mon avis assez anecdotique. Moi j'en ai vu 2-3 observations qui semblent... qui pourrait rentrer dans la définition, mais vigilance extrême, parce que la frontière entre la forme grave et la forme dont les bénéfices secondaires induits par la réussite sportive vont peut-être modifier ou améliorer les problèmes psychiques, ça me paraît être une frontière tellement ténue qu'il faut être d'une extrême vigilance. Je l'ai dit vraiment pour mémoire.
Quel est l'intérêt opératoire de ce concept? Il est simplement un dédouanement. Quand ça a été inventé, c'est un dédouanement par rapport au fait que là, il y a une conduite anorexique, il y a un trouble des conduites alimentaires dans une optique qui est une optique qui a été valorisée de performance et détournée. Il y a donc, quand le concept a été construit, ça a été un système défensif pour qu'on puisse dire que le sport n'induit pas l'anorexie. C'est un problème moral. Or, les premières descriptions que l'on a, du point de vue sémiologique, on n'a rien. C'est à partir du moment où on regarde quelles sont les identités. Et ce qu'on a pensé quand on a vu ce problème-là à Glasgow l'an dernier, c'était le problème très particulier de savoir quelle était la prédiction qu'on pouvait faire sur le futur, en disant que ces formes-là, elles n'étaient pas des formes graves ou des formes qui arrivaient à avoir des facteurs de protection. Mais on voit bien qu'il y a une intentionnalité des gens qui ont fait la description qui est à la limite de la tentative de réhabilitation en faisant un concept scientifique. Je pense que ça ne se tient pas. Et du point de vue, je ne sais pas si vous avez votre opinion, du point de vue de la prise en charge, ça ne change pas grand-chose.
Voilà. Par contre, il ne faudrait pas dire que le fait d'être une sportive de haut niveau et d'avoir une anorexie, un trouble de comportement alimentaire, c'est rassurant. Non, parce que il y a des sportifs de haut niveau, d'ex-sportifs de haut niveau, parce qu'elles ne sont plus du tout sportives de haut niveau quand elles ont un trouble de comportement alimentaire tellement elles sont fatiguées, qui ont une anorexie mentale parfaitement classique et extrêmement grave. Donc c'est un concept qui me paraît extrêmement flou.
Et puis il y a l'hyperactivité des anorexiques classiques.
Moi, je n'ai pas rencontré cliniquement d'anorexie athlética. Je n'ai pas rencontré d'anorexie athlética. En revanche, j'ai rencontré d'authentiques anorexiques mentales qui, pour maintenir la performance, étaient obligées de maintenir un poids minimal. Et dans ce sens-là, on pouvait penser qu'en effet, la pratique de leur sport à un haut niveau, avec la performance au bout, les maintenait à un niveau de poids finalement qui était un petit peu au-dessus et un peu moins carencé que les anorexies mentales.
C'est quand même probablement très fréquent chez les danseuses.
Et voilà.
Hein, chez les danseuses. Alors il y a des. Je ne sais pas du tout sur quoi ça repose ça, mais on lit des choses dans les grands ballets. Dans les grands ballets, il y a un nombre de filles ayant une anorexie athlética ou pas athlética, j'en sais rien, qui est tout à fait considérable et tout à fait inquiétant. Hein. Pour moi, la danse classique est un grand facteur d'anorexie mentale.
Alors, je crois que c'est très intéressant parce qu'on voit l'évolution actuelle. Hein, on demande aux ballerines et aux danseurs d'autres performances actuellement et on voit s'éteindre progressivement la grande prima donna avec les joues creusées, les salières à y mettre tout le sel des salines de Bretagne. Hein, et là, maintenant, on les voit courtes, rondelettes, musclées, fessues, enfin, quelquefois, quelque chose qui... Et je crois que c'est quand même intéressant. Il y a une évolution entre cette danse et quand on voit, par exemple, moi, j'ai suivi pendant un certain temps deux troupes comme cela. On voit les troupes classiques, on avait vraiment le profil comme cela. Et on voit maintenant le profil musclé, et souvent les problèmes de taille. Et je rappelle aussi qu'il y a des inductions des maltraitances dues aux critères sportifs, aux critères des pratiques athlétiques. C'est le fait qu'autrefois, quand on voulait rentrer à l'Opéra de Paris, les danseuses devaient faire moins d'1m65. Donc elles venaient nous voir pour qu'on ne dépasse pas 1m65. Il fallait qu'on les ralentisse. Et maintenant, il faut plus d'1m65. Donc on vient nous voir pour les pousser. Et je crois que c'est quand même ça qui est très intéressant, c'est par rapport aux critères extérieurs. Et je crois qu'on aurait aussi intérêt, pour définir les maltraitances, d'avoir les critères environnementaux qui posent un grand nombre de problèmes aussi.
C'est vrai que je n'ai pas développé ce qu'on appelle, nous, mais non scientifiques, les familles toxiques qu'on repère, comme vous l'avez fait, assez vite et qu'on essaye de faire prendre en charge le plus rapidement possible. Et c'est pas à ce moment-là l'enfant à être traité. Et des fois, le fait qu'il soit mis dans une structure est une forme de traitement assez bénéfique.
Oui, à l'inverse. Les entraîneurs sont moins toxiques que les anciens parents sportifs. C'est ça que vous voulez dire?
Marie-Cole, j'avais une question par rapport au signalement que vous faites ou que vous semblez faire. Enfin, moi, ça me questionne énormément parce qu'évidemment... On est souvent dans cette dualité compliquée de savoir si on signale ou pas, et où ça s'arrête, où ça commence, etc. Et surtout, si on se décide finalement de signaler, de comment le signalement est reçu et maintenu. Enfin, moi, ça me semble assez formidable que vous puissiez faire ces signalements sur ces critères-là et que ça puisse, la plainte puisse être entendue, reçue.
Pour un pédiatre enfant battu, c'est un signalement à faire. Enfin, ça me paraît... Je sais pas, on a cette formation-là.
Et ça, c'est l'avantage des pédiatres, parce que je crois que les pédiatres sont beaucoup moins culpabilisés à faire un signalement que toutes les autres professions médicales. Je ne sais pas ce que vous en pensez, madame, mais il y a probablement à peu près que des pédiatres qui signalent. Les autres médecins des autres spécialités signalent peu.
Alors, on en parle, si vous voulez, mais moi, les signalements que j'ai faits au juge, c'est-à-dire coup de fil au juge, c'est parce que plusieurs personnes me rapportent quelque chose ou la presse rapporte quelque chose et qu'on convoque l'enfant. Et s'il a des marques, on connaît les signes cliniques typiques de coups, si l'histoire est évocatrice, on peut se permettre, avec des photos, d'appeler le juge. Sinon, j'appelle l'unité de l'enfance en danger et on discute le dossier.
Mais sur la question des enfants battus, encore, je conçois que ce ne soit pas trop compliqué. Mais par exemple, dans le cadre d'un syndrome de réussite par procuration, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a une enquête qui est diligentée?
Dans ces cas-là, ce n'est pas la peine d'arriver jusqu'à ce qu'il y ait besoin d'une décision de justice. Je trouve qu'il y a un grand moment... jusqu'à ce qu'il y ait des répercussions graves, psychologiques au moins, et d'autres. Alors je pense qu'il faut arriver beaucoup plus tôt. Et je pense que quand on est proche des équipes d'entraînement de ligue, par exemple, on leur explique qu'on voudrait avoir un signalement, on voudrait avoir les informations et pas les apprendre 2 ans après, quand l'enfant est parti de la ligue. Donc... quand il va très mal et qu'il faut qu'on le mette en urgence sur une consultation psychologique, c'est plus intéressant. Donc on crée plus facilement un réseau et c'est les recommandations de l'Académie américaine 2007. C'est de monter des réunions tripartites, si vous voulez. Moi, je l'ai fait dans tous mes départements. C'est des réunions qui sont difficiles à mener parce que ça se finit en discussion où personne s'entend. C'est un nombre de matchs. Il se renvoie la balle sur la sollicitation, c'est vous qui demandez les matchs, disent les parents. L'entraîneur dit, non, c'est vous qui emmenez votre enfant sur les compétitions, c'est vous qui le mettez dans cette situation. C'est un dialogue de sourds. À la fin, je peux dire, écoutez-moi, vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne veux pas qu'il y ait de retentissement. Donc si l'enfant ne va pas bien, ils savent qu'on veut mettre en place les conduites à tenir. Donc on ne va pas jusqu'au signalement dans ces cas-là.
Souvent, on est dans une alternative binaire. Ou on fait rien, ou on tire la grosse Bertha, on fait le grand truc. Il y a toute une série d'étapes intermédiaires qui sont utiles et qui sont efficaces. Mais qu'il faut protocoler pour savoir s'il y a une étape qui a été faite et qui n'a pas marché, il est légitime qu'on aille à une autre étape. Et ça, il faut le faire. Et les interventions... de beaucoup antérieurs au signalement, doivent être l'objet de notre réflexion. Le signalement, la judiciarisation, n'est pas la problématique majeure pour nous. C'est l'échec de l'antérieur. L'échec des personnes qui en sont convaincues, mais l'échec aussi de tout l'environnement. Et quand vous mettez en place ces réunions, je crois que c'est très important, et il faut qu'elles soient protocolées. Ça veut dire qu'il n'y a pas, et je vous prie de m'excuser, je vais faire une toute petite nuance, je demande des informations? Non. Parce que si on demande des informations, ça veut dire que vous avez légitimité à les demander. Légitimité, si vous l'avez par rapport à votre intentionnalité, youpi. Mais si vous l'avez par rapport à votre statut, vous mettez l'autre dans une position qui est un problème d'infériorité. Auquel cas, ça veut dire, nous avons ensemble besoin de nous éclairer dans un statut qui est un statut horizontal sur une problématique qu'un certain nombre d'entre nous avons identifié et d'autres pas. Auquel cas, c'est tout à fait différent, parce que là, on n'est pas dans une autorité médicale, une autorité administrative, etc. On est dans une réunion de confrontation et de mise en commun des compétences. Auquel cas, à la suite de cela, il faut savoir qu'on fait une évaluation des choses, et ensuite, on peut voir c'est ça la notion de réseau, quels sont les rôles respectifs de chacun, et en même temps, donner mission, non pas simplement déterminer les rôles, mais donner mission à chacun de faire telle ou telle chose. Et en plus de ça, la sonnette d'alarme, si jamais nous ne réussissons pas, quel est l'indicateur que nous allons choisir pour passer à une évolution ultérieure? Et je crois que c'est cet apprentissage-là de ces multi-actions beaucoup plus riches, beaucoup plus sophistiquées, qui nécessitent des compétences et des habiletés sociales importantes, antérieures à la grosse Bertha de la signalisation, du signalement, pardon, qui fait que les choses... Et c'est pourquoi, chacun et chacune d'entre nous, nous devons développer notre capacité, non pas à dire, mais à identifier la probabilité d'eux. Et si on identifie la probabilité d'eux, ça veut dire travaillons ensemble. Ça ne veut pas dire, à ce moment-là, si j'identifie la probabilité d'eux, je fais un signalement. Là, on risque de faire des faux positifs importants. Mais par contre, essayez à ce moment-là de déclencher le fait d'une action d'évaluation pluridimensionnelle, pluridisciplinaire, l'identification des rôles, l'identification des tâches, l'identification de la réussite ou de l'échec de cette partie du protocole. Oui, c'est ça qui fonde une politique dans le domaine des maltraitances en général et plus particulièrement dans le milieu sportif.
Professeur Parquet, je vais clore la matinée, les 13 heures. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, beaucoup d'interventions se rejoignent sur un point, hormis les cas extrêmes évidents de maltraitance avec violence, etc. Il y a toute une zone qui est complexe, subtile et qui demande compétences et attention. Et finalement, la solution passe par cette présence, ce réseau, cette évaluation permanente. J'allais dire qui renvoie à une difficulté, c'est l'existence d'une communication efficiente avec des milieux qui ne se comprennent pas forcément. Je regrette l'absence de beaucoup d'acteurs du milieu sportif, d'entraîneurs, etc. On est certainement beaucoup de gens de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire spécialistes, médecins, etc. C'est un milieu qui commence à s'ouvrir et l'initiative du ministère avec ce programme de prévention et de lutte contre le harcèlement est vraiment un grand pas en avant. En tout cas, c'est une effraction, on va dire, dans une obscurité, mais qui va nécessiter beaucoup de temps pour arriver à cette communication tripartite, quadripartite, éclairée, éclairante, et qui est certainement, effectivement, la solution la plus efficace, la plus douce et la plus pertinente. Merci, en tout cas. Merci aux intervenants.